Donc, déjà le 16 décembre, aujourd'hui, c'est ça, le 16 décembre, on est presque à Noël. Ce matin, c'était beau. Je sais pas si vous aimez les chants de Noël. Je ne sais pas quand vous avez le droit de commencer les chants de Noël dans votre maison. Je sais qu'il y en a que c'est le plus tard possible, il y en a que ça serait à l'année. Mais il y a une chose qu'il faut dire avec les chants qu'on vient d'entendre ce matin, c'est qu'il y a vraiment un message qui est puissant et qui vaut la peine d'être raconté quand on parle de Noël. Et quand on parle de Noël, c'est peut-être que pour chacun d'entre nous, il y a plusieurs souvenirs qui peuvent venir. Mais en général, on parle d'une belle période de l'année. Du moins, c'est ce qu'on veut croire, c'est ce qu'on veut. C'est une période où ce que la famille est réunie. Une période où on parle beaucoup de paix dans le monde, de paix dans nos relations. On parle de joie, de sacrifice. On vient de parler des paniers de Noël. C'est une période où on veut donner, où ce qu'on voit beaucoup de générosité. C'est une période où on rêve de justice. C'est une période Noël où est-ce que c'est un peu la saison où est-ce que tout d'un coup, les gens, on commence à croire aux miracles. L'autre jour, j'écoutais sur un site internet une vidéo de NFL, il parlait de football. Et puis là, l'annonce pour la semaine, pour annoncer les matchs de la semaine, c'est qu'il présentait trois équipes qui ont besoin d'un miracle pour pouvoir faire les séries. Et puis, il dit, après tout, c'est Noël, c'est la saison des miracles, tout peut arriver au mois de décembre. Mais on voudrait des miracles dans nos vies, on voudrait que ça aille mieux, si seulement, on se pose, puis là, on peut répondre à cette question, si seulement, et on complète la phrase. Mais je crois que Noël nous pointe vers quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous fait rêver, quelque chose qui nous donne de l'espoir. Mais aussi quelque chose que l'expérience humaine nous montre que bien souvent, on arrive à court de ces désirs-là. On n'y arrive pas. Souvent, on n'y arrive pas complètement, on n'est pas complètement satisfait. On voudrait la paix, mais on voit la guerre, on voit des relations brisées dans nos vies. On pense à justice et on voit pauvreté, on voit le mal qui nous est fait, on voit plein d'incompréhensions dans notre vie. On veut donner, on veut être généreux, mais on voit le poids financier qui pèse sur nous, les responsabilités, le stress. C'est pas vrai que ça prend une pause 2 semaines. Même que ça peut contribuer à l'augmenter. On désire la joie, mais peut-être qu'on ne peut même pas l'envisager. Peut-être que tu vis une période de deuil, de solitude, de déception. Et ce matin, on est là, puis je suis ici avec vous pour qu'on puisse dire que malgré tout cela, Noël est toujours digne d'être célébré. L'histoire de Noël nous montre que Dieu est digne de notre confiance. Dieu est digne de notre adoration. Il est venu jusqu'à nous pour qu'on puisse le croire et le vivre. Et je veux qu'on puisse croire ça ce matin, qu'on puisse regarder ce matin, qu'on puisse se poser des vraies questions. Comme ce vendredi à la jeunesse, on se posait la question, est-ce que Dieu est vraiment puissant? Alors que chacun d'entre nous, on peut avoir des moments dans nos vies où ce qu'on a vraiment l'impression du contraire. Où est-ce qu'on parle d'une belle histoire, de quelque chose qui est arrivé, on parle de Dieu, on nous parle de Noël et d'un sauveur qui est venu dans le monde, mais il me semble que ça ne contribue pas à changer mon monde. Ça ne contribue pas à faire une différence dans ma vie ou dans ma situation présentement. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder 6 éléments de Noël qui nous montrent que Noël vaut vraiment la peine d'être célébré. J'espère que ce matin, nos cœurs puissent se préparer pour que pendant cette saison de Noël, où on voit plus que jamais dans l'année ces thèmes d'espoir, de paix, d'amour, de changement, de joie, j'espère que Dieu puisse préparer nos cœurs pour qu'on puisse le célébrer et être dans la joie malgré nos circonstances. Je crois que... C'est bon, OK. Donc, tout d'abord, l'histoire de Noël nous apprend que Dieu accomplit ses promesses. Quand le Nouveau Testament commence et commence avec l'histoire de la naissance de Jésus, ça fait 400 ans que Dieu ne s'est pas adressé à son peuple. 400 ans de silence. Israël est sous la domination des Romains. une domination difficile. Le peuple n'a plus de roi. Disons que l'histoire du peuple de Dieu à ce moment-là a connu des moments beaucoup plus glorieux. On ne parle pas de la gloire d'Israël quand on parle de ces moments-là, de cette époque-là. Quand on parle de la gloire d'Israël, on parle de ses conquêtes du passé. On parle de la protection de Dieu dans le désert, la sortie d'Égypte, comment Dieu les a délivrés. On parle de l'eau qui s'est séparée en deux. On parle de la nuée de feu qui a dirigé le peuple. On parle de quand Dieu s'est adressé au prophète et a parlé à son peuple et le dirigeait. On ne parle pas d'un peuple divisé en deux qui revient dans son pays pour être sous la domination d'un autre peuple, d'une autre puissance. Ça n'allait pas bien en Israël. En fait, jusqu'à ce que cette nuit-là où tout a changé. Mais faites attention parce que vous savez, et vous connaissez l'histoire, la Bible a cette manière-là, Dieu a cette manière-là, des fois surprenante, de nous montrer comment il fait les choses. Parce que Dieu va faire éclater sa gloire à nouveau par un bébé, né dans une crèche, d'une famille inconnue, admiré par des bergers. Vraiment pas une histoire typique pour changer le monde. Voici l'introduction de Dieu dans le monde. Voici l'introduction du roi des rois qui va régner pour toujours. Une introduction royale. Pas vraiment, n'est-ce pas? Du moins, pas comme on l'aurait fait probablement. Mais c'est de cette manière, des plus modestes, que Dieu a décidé de venir parmi nous, que Dieu a décidé de briser le silence, que Dieu a décidé de sauver son peuple, de venir donner l'espoir, la joie, le pardon de nos péchés. Et on va lire ensemble un passage dans Matthieu 1, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme. » car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Prions ensemble un instant. Seigneur, on te prie que ce matin, tu puisses toucher nos cœurs, tu puisses nous encourager, tu puisses venir nous saisir là où on a besoin d'être saisi, Seigneur. Je te prie que tu puisses être une joie pour nous, que tu puisses être une bonne nouvelle qui change notre vie. Qu'on puisse, Seigneur, croire que tu es venu pour changer notre vie à tous les jours, que tu fais la différence dans nos vies à tous les jours. Et que ce matin, qu'on puisse regarder ensemble cette belle histoire, cette temps dans l'histoire où tu t'es fait homme, où tu es venu parmi nous et tu t'es révélé à nous. Et qu'on puisse voir ça comme un beau signe d'espoir, Seigneur Jésus. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen. Donc, Dieu accomplit sa promesse de sauver l'humanité. Sa promesse qu'il a faite dès le commencement où l'humanité a décidé de se rebeller contre Dieu. Dès le début, Dieu avait fait la promesse à Adam et Ève qu'il allait régler cette situation-là. Dans l'Ancien Testament, on voit partout où ce que Dieu fait des promesses qui vont s'accomplir, où est-ce qu'un jour, il va les sauver. Et on voit déjà dans cette histoire un passage de l'Ancien Testament qui parle de la Vierge qui va avoir un enfant. Et on va appeler cet enfant-là Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Dieu a fait des promesses, et à ce moment où il arrive dans ce monde, Dieu nous montre qu'il est digne de tenir ses promesses. Il tient toutes ses promesses. Il a fait cette promesse au roi David dans l'Ancien Testament, quand il a dit à David, qui était le roi du peuple d'Israël, qu'un jour, sa famille allait régner pour l'éternité sur Israël. Et on voit la naissance de Jésus. Jésus qui est né, on va se le dire, de façon assez peu, il a été conçu en tout cas de façon peu conventionnelle. Il est venu au monde par une maman vierge. Alors c'était normal pour Joseph d'être un peu perplexe quand il a su que sa femme était enceinte. Sa femme qui était en fait, pas encore complètement sa femme, il n'y avait pas eu de relation avec elle, on pourrait dire que c'était sa fiancée, mais avec, à cette époque-là, un engagement de fiançailles était encore plus sérieux, si on veut. Pour rompre un engagement de fiançailles, il fallait que tu fasses l'équivalent d'un divorce. Mais Joseph apprend que sa femme est enceinte. Le texte nous dit que c'est un homme de bien, un homme qui veut faire le bien. Alors, il ne peut pas continuer cette relation-là avec cette femme-là. Donc, mais pour ne pas la déshonorer, il veut rompre en silence, dans le secret avec elle. Et c'était la chose à faire à l'époque. Joseph faisait le bien. Mais Joseph avait promis à David qu'un roi allait régner sur sa famille pour l'éternité. Dieu avait promis à David. Alors, c'est pour ça qu'on voit l'ange qui vient voir Joseph et il dit à Joseph qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. L'ange dit, « Inquiète-toi pas, Marie n'a pas couché avec un autre homme, c'est le Saint-Esprit qui l'a mis enceinte. » Et l'enfant qui va venir au monde s'appelle Jésus, c'est-à-dire c'est lui qui va sauver son peuple. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour que Jésus soit un descendant de David, pour que Dieu accomplisse cette promesse-là, il fallait que le Père terrestre de Jésus soit un descendant de David. Mais Jésus n'avait pas de Père terrestre. Et dans cette histoire, quand on voit quand l'ange dit à Joseph, « Tu vas lui donner le nom de Jésus », il est en train de dire à Joseph, « Tu dois adopter Jésus pour être ton fils. » Et c'est à ce moment-là, et le passage se termine en parlant de Joseph qui donna le nom de Jésus quand Jésus est né. Et c'était un acte d'adoption. Jésus est devenu le fils adoptif de Joseph et du même coup, un descendant de David. Dieu a accompli cette promesse. Mais Dieu a accompli sa promesse en envoyant son fils Jésus sur la terre. Emmanuel, Dieu parmi nous. Ce texte nous parle de l'incarnation de Jésus qui est venu, qui s'est fait homme. Jésus était pleinement homme, né d'une maman, il est sorti de la même manière que nous autres, mais aussi pleinement Dieu. Et qu'est-ce qu'on apprend du fait qu'il était Dieu et qu'il était à la fois humain? C'est vraiment important pour nous. Parce que l'humanité de Jésus nous enseigne que Jésus s'identifie à nous. Jésus nous comprend. Jésus a vécu ce que nous vivons. Il nous connaît. Jésus a eu faim. Jésus a eu peur. Jésus a eu mal. Jésus a probablement gardé ses parents réveillés la nuit. Ça ne le dit pas. C'est pour ça que j'ai dit probablement. Mais il a été tenté. Jésus est familier avec nos difficultés physiques, nos difficultés émotionnelles, nos difficultés mentales. Il est familier avec nos tristesses. Jésus sait de quoi on a besoin, pas seulement comme un Dieu qui sait tout, mais comme un humain qui l'a expérimenté. Et la divinité de Jésus, le fait qu'il est Dieu, qu'il est complètement Dieu, nous enseigne qu'il a le pouvoir sur la maladie, qu'il commande la nature. Il a l'autorité sur le péché, le contrôle sur la mort. L'incarnation de Jésus comme étant homme, pleinement homme et pleinement Dieu, c'est le miracle le plus extraordinaire de toute la Bible. C'est le moyen parfait que Dieu a choisi pour sauver l'humanité. C'est de cette manière-là que Dieu a décidé d'accomplir ses promesses et de déclarer au monde entier un sauveur nous est né, le sauveur du monde est né. Dieu accomplit ses promesses et Dieu accomplit ses promesses dans notre monde. L'histoire de Noël nous rappelle dans quel monde Dieu intervient. Jésus est né, le sauveur du monde est vivant. Ça va changer le monde. Les anges, on va le voir tantôt, qui vont s'adresser aux bergers, leur parlent d'une nouvelle, d'une grande joie. Ça va changer le monde. C'est supposé de changer votre vie. Et puis, dans la même histoire, et on ne va pas le lire ce matin, mais si vous lisez les récits de la nativité dans Matthieu, Matthieu 1, Matthieu 2, dans cette même histoire où on nous parle d'une histoire de grande joie, de grand espoir, on voit un homme, un roi jaloux, un homme en colère, un homme qui veut protéger son royaume, un tyran sanglant qui fait du mal à son peuple. Et quand Jésus naît, on peut même voir cette histoire-là juste à côté de l'histoire de Jésus qui est vers la fin de cette histoire-là, où est-ce que Hérode pourrait être certain que le roi ne naisse pas, que le roi ne vienne pas, que le roi ne grandisse pas et qu'il ne vienne pas prendre sa place, il décide de tuer tous les bébés de 2 ans et moins qui vivaient dans la région. Un texte difficile, un texte tragique, un texte qu'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas comprendre la souffrance, on ne peut pas l'expliquer. Des fois, même d'essayer de la comprendre puis de l'expliquer, c'est inutile, on ne peut pas y arriver. Mais c'est un texte tragique et difficile qui nous rappelle certainement qu'on vit dans un monde qui est souffrant. On voit certainement que l'histoire de Jésus, l'histoire de l'Évangile, ne nous promet pas que ça n'arrivera plus, ce genre de choses-là, dans le monde dans lequel on vit. Ne nous promet pas que la situation va changer complètement maintenant. Ce qu'on voit, c'est que Jésus est venu dans un monde où il y a le mal. Et le mal, on y contribue et on le subit. Encore aujourd'hui. Jésus est venu nous donner un espoir, une paix, une joie qui est au-delà des circonstances difficiles, même tragiques de nos vies. Quand on lit ce texte, cette histoire-là, on pourrait dire, aïe, l'auteur, il s'est trompé, il a voulu nous amener une grande nouvelle, puis là, il met quelque chose qui est tragique. Puis... Non, on voit qu'on vit dans ce monde-là, et c'est dans ce monde-là que Jésus est intervenu. Quand ma fille Aurélie, elle est née, il y a eu quelques petites complications à la naissance, et dans les premières journées de sa vie, on ne savait pas c'était quoi. Donc, juste l'inconnu, c'était quand même assez stressant. Et puis, on a su qu'elle avait un petit problème avec son nez qui a dû être réparé par des chirurgies, puis tout était correct. Ma fille est en santé aujourd'hui, merci Seigneur. Mais à ce moment-là, je me souviens, à un moment donné, un soir, j'étais très stressé, j'avais peur, c'était vraiment difficile à entrevoir comme situation. Et J'ai demandé à Dieu, juste comme un petit peu en panique même, je pleurais, je crois, puis je demande à Dieu, pourquoi est-ce que ça l'arrive? Et c'est arrivé à quelques fois dans ma vie que j'ai posé des questions à Dieu, puis Dieu, j'ai pas l'impression qu'il m'a toujours répondu. Mais cette fois-là, la pensée qui m'est venue en moi quand j'ai posé ça, la seule phrase que j'ai eue, c'est parce que je t'ai pas promis que ça l'arriverait pas. mais je suis avec toi, je prends soin de toi et je prends soin de ta fille aussi. Et ça, ça m'a juste comme rappelé que la souffrance et le monde dans lequel on vit, on ne peut pas l'expliquer, on déteste ça, on ne voudrait pas que ça arrive, on ne voudrait pas que ça soit là. Mais certainement, Dieu nous rappelle par ces moments-là, mais je suis là et je suis venu et je peux faire quelque chose dans ta situation. Je suis quand même venu apporter la joie, la paix, la consolation. Je suis quand même venu te sauver. Dieu nous montre que sa miséricorde, sa compassion, sa bonté, son pardon sont disponibles pour tout le monde. Je vous ai parlé des bergers. Mais les bergers, et je vais vous le lire ici, ce récit-là de l'histoire se retrouve dans l'évangile de Luc, mais qui nous parle qu'il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Les bergers faisaient partie des personnes les moins importantes de la société. Les bergers, on ne les aimait pas. Les bergers, les gens ne disaient pas des belles choses sur eux. Les bergers, c'était les personnes qui étaient en marge de la société. C'est comme si Dieu il nous disait, « Je suis venu apporter une bonne nouvelle pour toute l'humanité, pour tous les hommes, pour toutes les femmes. » Il voulait qu'on s'assure que quand on allait lire ce récit-là, qu'on dise, « Tout le monde, même les bergers, même mon voisin, même moi, tout le monde. » Ce n'étaient pas les personnes à qui on se serait attendu si on avait pensé que Dieu s'adressait à une classe spéciale en particulier que Dieu allait s'adresser. Mais Dieu est allé jusque aller vers les bergers. Et c'est vraiment intéressant parce que dans cette histoire, on voit que les bergers avaient peur. Et on voit à plusieurs reprises dans la Bible, quand un ange du Seigneur ou quand Dieu s'adresse à des êtres humains, les gens ont toujours peur. Les gens, même que parfois on le voit, les gens sont certains qu'ils vont mourir. Ils sont stupéfaits devant la grandeur de ce qu'ils sont en train de témoigner, de la chose qu'ils sont en train de voir. Ils sont sûrs qu'ils vont mourir. Devant cette grandeur, de cette splendeur, c'est comme si ces êtres humains, à chaque fois, reconnaissent qu'eux, ils ne sont pas grands. Qu'eux, ils sont vraiment petits. Qu'ils ne méritent pas la présence de Dieu. Qu'ils ne méritent pas ce message de la part de Dieu. On voit Ésaïe qui témoigne d'une vision qu'il a eue. Il est certain qu'il va mourir. Parce qu'il est trop impur pour être dans la présence de Dieu. C'est comme si on voit la grandeur de Dieu et on reconnaît tout de suite à quel point on n'est pas digne d'être dans sa présence et que Dieu ne devrait pas tourner ses regards vers nous. On le reconnaît instantanément. Mais c'est le message qui surprend. Alors qu'on reconnaît cette petitesse, qu'on reconnaît la grandeur de Dieu, on reçoit aussi le message de Dieu qui dit, je suis ici pour vous... L'ange de Dieu qui est ici pour dire « Je suis ici pour vous annoncer une bonne nouvelle. Je m'en viens parmi vous. Dieu est parmi vous. » C'est une nouvelle qui va changer votre vie, une nouvelle qui apporte la joie. Alors qu'on pense qu'on n'est pas digne d'être dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui vient parmi nous et qui nous dit « Je t'aime, je veux changer ta vie, je veux te donner un espoir. J'envoie celui qui va sauver son peuple, mon peuple, de ses péchés. Et les bergers sont stupéfaits par cette nouvelle et tout de suite entre eux, ils se regardent. Il y a quand même des choses surprenantes qui se passent ici. Une maman vierge, des anges dans le ciel, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler ou de voir. Mais eux sont là, ils ont expérimenté cette grâce de Dieu. Et là, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on va aller voir. Et là, ils sont allés voir. Ils sont allés à Bethléem et ils ont vu les choses comme Dieu, comme l'ange les avait annoncées. On peut lire au verset 17, après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie, la maman de Jésus, gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent et célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'il avait entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Les bergers nous enseignent une belle leçon ici. Parce que les bergers qui étaient vraiment, juste par le fait qu'ils étaient des bergers, ce n'était pas une bonne situation pour eux autres. Mais les bergers ont vu la gloire de Dieu, les bergers ont vu la gloire de Dieu dans le ciel et ils l'ont vu dans un petit enfant Jésus qui était le sauveur du monde. Et quand ils retournent chez eux, les bergers sont encore des bergers. Les bergers vont probablement encore pas être aimés, être en marge de la société. Les bergers vont être encore des mal-aimés dans la société. Leur situation ne change pas, mais les bergers s'en vont en louant Dieu, en louant la gloire de Dieu. Ce qui a changé, c'est que Dieu, maintenant, est vivant dans leur situation. Ils ont rencontré le Sauveur du monde. Et l'histoire de Noël nous montre aussi à quel point Dieu est grand et qu'il veut se faire connaître à toute la terre. Si on revient dans l'histoire racontée par Matthieu, on voit que Jésus, il y a des mages qui sont venus, on les a chantés ce matin. Probablement 2 ans plus tard que les mages sont venus à Jérusalem. Et là, ils disent, où est l'enfant? On veut l'adorer, le roi pour les Juifs. Et là, c'est dans cette consternation-là qu'Hérode, dans sa colère, on voit qu'il va comploter pour vouloir que cet enfant-là meure. Mais les mages ont vu une étoile dans le ciel. Puis certainement, ce n'est pas un texte pour nous apprendre comment étudier à propos de Dieu, de regarder dans le ciel, puis de découvrir la volonté de Dieu. Mais ce qu'on voit, c'est que Dieu s'est révélé à des hommes étrangers qui ne venaient pas d'Israël, qui, eux, c'étaient des experts en étudiant les étoiles, qui pouvaient donner des conseils aux rois de leur pays avec leur connaissance sur les étoiles et les temps et tout ça. Dieu s'est révélé à ces hommes-là. Ils ont vu une étoile dans le ciel et ils ont su qu'il y avait un roi pour les Juifs qui venait de naître. Ce n'est pas clair d'où vient cette étoile. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a 2 mentions d'une étoile qui prophétise à propos de Jésus. Mais certainement, les mages, eux, ont reconnu ce signe-là. Ils se sont rendus à Jérusalem. Et quand ils demandent où est l'enfant qui doit naître, le roi pour les Juifs, Hérode se tourne vers ses spécialistes, les personnes, les religieux, ceux qui connaissaient la loi de l'Ancien Testament, ceux qui auraient dû reconnaître les signes qui leur sont rapportés. Et Hérode dit, bien, où doit-il naître cet enfant-là? Et les gens qui étaient là, les spécialistes, ils répondent à Hérode avec un verset de l'Ancien Testament que Jésus devait naître à Bethléem. Et les mages sont partis pour adorer l'enfant. Eux, c'était clair, quelque chose de grand qui venait de se passer, ça veut dire qu'il faut aller adorer l'enfant. Mais les personnes religieuses qui connaissaient la Bible, qui connaissaient l'Ancien Testament, eux sont restés là. On voit dans le texte leur inaction, il n'y a pas de changement. Et on voit comme dans tout l'évangile de Matthieu, comment est-ce que Jésus va interagir avec ces personnes-là tout au long de son ministère. Et on voit que c'est des personnes qui connaissaient les Écritures, mais qui ne connaissaient pas Dieu. C'est des gens qui connaissaient beaucoup de choses à propos de Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu, ils n'étaient pas disposés à être transformés par lui. On voit ces personnes-là qui ne répondent pas à l'appel, à cet émerveillement-là des mages. Parce que c'était sûr pour les mages, comme cette prophétie-là dont parlent ces hommes religieux-là, c'est exactement là qu'on doit aller. Eux n'ont pas suivi. L'attitude des hommes religieux nous rappelle qu'on doit faire attention de ne pas lire la Bible et passer à côté du point qu'elle veut nous enseigner. On peut connaître beaucoup de choses à propos de Dieu et pas connaître Dieu. Pas être transformé par lui. On veut se laisser transformer par Dieu à chaque jour. Les mages sont allés et quand ils sont arrivés à Bethléem, ils se sont prosternés devant le roi, ils ont donné des cadeaux pour eux. C'était certainement une nouvelle qui avait de la grande valeur. Certainement. Jésus est là avec ceux qui sont dans le besoin, comme les bergers. Dieu s'est révélé à eux. Mais Jésus a aussi l'attention des plus grands de la terre. Ces gens-là ont été stupéfaits par ce roi qui était né, ce petit enfant. Et le point ici, l'histoire de Noël a le pouvoir de changer toute notre vie. Dieu, Jésus veut te donner cette joie à toi. Il veut agir dans tes circonstances. Ce que je veux qu'on voit ce matin, c'est que ce qu'on croit va motiver ce qu'on fait. Et croire que Jésus est le sauveur du monde, le roi des rois, celui qui est venu nous sauver de nos péchés à la croix, c'est recevoir une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est le voir nous transformer alors qu'on en est incapable. Dieu connaît nos circonstances, il sait comment on se sent, il sait ce qu'on vit, mais il est aussi venu jusqu'à nous pour nous dire « Je t'aime, je suis là ». Tu es approuvé. Il est venu de loin et s'est fait homme pour nous dire ces choses-là. C'est lui qui peut prendre les blessures de nos vies puis les changer en joie. La souffrance et la changer en satisfaction. La rébellion et il nous revêt de la justice, de sa justice. Il prend le péché dans nos vies et nous amène au salut. Il fait ces choses impossibles et il les fait parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui est venu jusqu'à nous. Il y a seulement Jésus qui peut changer nos vies à ce point, qui peut donner une nouvelle perspective à nos circonstances. L'Évangile nous rappelle, l'histoire de Noël nous rappelle tout ce qui est important, tout ce que nous désirons en Jésus. La paix, la joie, la générosité, l'approbation. Jésus nous a donné tout ça à la croix. Et quand on lit le début de l'histoire, c'est Dieu qui s'en vient, comme Alex l'a dit ce matin, et un jour, il va mourir à la croix pour nous. Une femme missionnaire, Elisabeth Elliott, a dit un jour, « Dieu est Dieu, et puisqu'il est Dieu, il mérite ma louange, mon service. Je ne trouverai le repos que dans sa volonté. Et cette volonté dépasse toujours, infiniment, incommensurablement et de façon indescriptible, mes suppositions les plus hardies concernant ses plans. » C'est une femme qui a vécu beaucoup de souffrances dans sa vie. Beaucoup de souffrances même en essayant de parler et d'apporter l'évangile de Jésus aux êtres humains, aux hommes et aux femmes qui ne l'ont pas reçu, qui ne le connaissaient pas. Son mari s'est fait assassiner en essayant d'amener l'évangile. Donc, ce qu'elle dit, c'est « Je ne peux pas tout comprendre, mais je sais que Dieu est Dieu et que Dieu mérite mon adoration, ma louange, mon service. » Et voici la puissance de Dieu qui agit en nous. Quand Dieu ne change pas nos circonstances, mais qu'on est capable de l'adorer malgré cela. Et l'histoire de Noël est racontée par ceux qu'elle a transformés. Et que ce que Dieu a fait en nous, il veut le faire au travers de nous. Quand on est impacté par le message de Dieu, quand on est impacté par le message de l'Évangile qui nous a transformés, Dieu veut agir en nous et à travers nous. Il nous utilise pour qu'on partage son message. C'est ce qu'on a vu des hommes, des bergers, des mages dans cette histoire qui ont été transformés par cette nouvelle et qui ont agi sur cette nouvelle, qui ont rendu gloire à Dieu. Ils en parlaient naturellement. C'est quand on parle souvent de parler de Dieu aux autres, ça devient stressant parce que là, on commence à penser à comment je dois faire ça, la manière je dois le faire, quels sont les mots exacts que je dois dire. Mais ce que Dieu veut qu'on sache, c'est que Dieu agit en nous, Dieu a fait un changement en nous. Si on est émerveillé par ce que Dieu a accompli à Noël dans cette histoire-là, on veut raconter au monde la joie qu'on a de le connaître et de lui appartenir. C'est facile pour moi, pour ceux qui me connaissent plus, de vous parler de sport, des fois des heures sans arrêter, avec passion, puis parler du Canadien, puis de la victoire de 5-2 hier contre les Sénateurs, puis de dire à quel point je suis content, puis comment j'aime ça, puis on en parle. Il y a pas de pourquoi, parce qu'on aime ça. Et ce que Dieu nous montre par cette histoire avec ces hommes qui sont venus. C'est que bien souvent, on a besoin de juste parler de ce que Dieu a fait dans nos vies. De la passion qu'il crée en nous par son action. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement bon, Dieu m'a tellement aimé. Dieu m'a donné une joie que je n'aurais jamais cru pouvoir avoir dans les circonstances que j'ai. Et je veux en parler. Je veux dire aux autres que Dieu m'aime et que Dieu les aime. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Cette nuit-là où Dieu est venu parmi nous, c'est cette nuit où la terre a été témoin que Dieu agit, même quand on ne le voit pas. Qu'il est digne de confiance et qu'il allait gagner la bataille contre le péché un jour, parce que ce qu'il a fait 33 ans plus tard à la croix quand il a vaincu la mort. Cette année à Noël, je te souhaite de voir la beauté de l'œuvre de Jésus dans ta vie. Je te souhaite de voir qu'il prend soin de toi dans tes circonstances. Je te souhaite de goûter à sa paix, à sa joie. Je te souhaite de voir des relations se réparer, de témoigner de sa générosité. Mais surtout, je te souhaite de te réjouir, parce que Noël, c'est une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle qui change nos vies à l'année longue. On va prier. Merci à Jésus pour cette belle nouvelle. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur, la grandeur de ton œuvre. Je te prie qu'on puisse, cette année, Seigneur, pendant que les fêtes arrivent, peut-être des temps en famille, des temps de réjouissance ou même peut-être au travers de nos moments plus difficiles, qu'on puisse être encouragé et animé de cette joie que tu es là, parmi nous, malgré tout. Que tu nous aimes et que tu sais ce qu'on vit et tu n'as pas fini avec nous. Tu n'as pas fini de nous transformer, tu n'as pas fini de nous aimer et de nous montrer la profondeur de ton amour. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse partager cet amour-là, qu'on puisse la partager autour de nous. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen.